confirmer la découverte. Et on a aussi en Angleterre, de manière complètement indépendante, Couch Adams, qui est un astronome britannique, qui lui aussi va découvrir Neptune pratiquement en même temps. Et Flammarion, d'ailleurs, lui rend hommage à l'astronomie populaire. Il faut reconnaître à Le Verrier son génie. D'ailleurs, dans la salle des astronomes à Juvisy-sur-Orge, il y a le nom de Le Verrier. Comme quoi, il n'est pas rancunier quand même. Enfin, entre guillemets, parce que vous savez que quand Flammarion va être très très connu, il va demander à, je crois qu'il demande à l'empereur, à Napoléon III, qui est encore sur le trône de France à l'époque, l'éviction de Le Verrier. Hein. Il va quand même lui demander ça. Donc il a un peu la dent longue. Voilà, c'est-à-dire la dent dure, pardon. C'est-à-dire que il lui en a vraiment voulu. Hein. Mais bon, on peut le comprendre aussi. Alors Camille Flammarion ici, il a l'âge de 20 ans. Il va publier en premier un livre qui n'est pas un livre d'astronomie, qui est Les habitants de l'autre monde, révélation d'outre-tombe, donc publié en 1862. C'est vraiment sa première publication d'un livret. Et là, il relate les expériences qu'il a eues en table tournante avec une médium qui s'appelait Mademoiselle Huet. Voilà, qui était connue à cette époque-là. Alors, en fait, les messages contenus dans ce livre par les âmes désincarnées sont des messages souvent qui relatent, qui citent la Bible, qui citent les évangiles, des messages d'amour. On a aussi beaucoup d'anonymes, d'esprits anonymes. C'est pas comme après, il y a beaucoup d'esprits connus, Galilée, etc., avec qui il va converser. Il y a pas, par exemple, je sais pas, des pharaons égyptiens, etc. On a des gens un peu inconnus qui se manifestent là. Voilà. Alors, bien sûr, on n'y croit pas, ça c'est autre chose. 1862, alors ça c'est le livre qui va le faire vraiment connaître, La pluralité des mondes habités, qui va publier au départ à compte d'auteur et qui va avoir un grand succès. Alors, ça serait ce livre qui aurait provoqué, on pense, l'éviction de Flammarion de son poste dans l'Observatoire de Paris, où donc il est tout de suite convoqué par Le Verrier. Et donc il aurait congédié Flammarion à cause de ce livre. On ne sait pas bien la cause. Ça, c'est une piste. Il y a une autre piste qui dit aussi qu'il aurait été congédié parce qu'en fait Flammarion était rêvé, quoi, au lieu de travailler à son poste de calculateur, et donc n'aurait pas, comme on dirait aujourd'hui, fait l'affaire dans son poste, et donc aurait perdu son emploi. Il y a aussi autre chose, c'est que Le Verrier savait que Flammarion faisait tourner les tables. Donc, il est possible aussi que c'était mal vu, mais on manque de documents pour l'affirmer. Ce sont des hypothèses. Voilà. Hypothèse raisonnable. Alors, vous voyez, il avait publié à l'époque une carte de Mars, et là, à droite, on a une photo de Mars faite avec un instrument amateur, mais d'un bon diamètre, qui a été fait par Damien Pêche. Et vous voyez, la carte de Flammarion à gauche et à droite,
c'est pas mal.
Elle est semblable. Hein. On a le Y inversé, c'est ce qu'on appelle la grande Syrtis Major. Donc on a la calotte de glace, etc. Donc c'est, vous voyez, Flammarion ici a été assez sobre et a proposé donc une carte de Mars qui est bien. Mais vous remarquerez, il y a une différence quand même, c'est qu'il a représenté la Terre et Mars du même diamètre, alors qu'en fait Mars est plus petit. Mars, ça fait à peu près 6 900 km de diamètre, notre Terre 12 400. Bon, j'arrondis. Et il a fait exprès, en fait. C'est-à-dire que Camille, alors c'est un grand passionné de Mars. Et c'est un très grand défenseur de ce qu'on appelait la théorie des canaux. Donc, on pensait à l'époque qu'il y avait une civilisation qui se mourait, très avancée par rapport à nous, et qui peut-être allait nous rendre visite. Voilà.
D'accord.
Et Flammarion défend cette idée très longtemps, avec beaucoup d'autres astronomes de l'époque. On va voir ça tout à l'heure. Donc, La pluralité des mondes habités a tellement de succès qu'elle est ici éditée en poche. Ben, c'est un petit format, ça. Hein. C'est tout petit. Ça doit faire, je crois, 9 cm de
Ah
haut à
oui,
peu près.
d'accord.
Eh ben, je l'ai là-haut, là. C'est un petit livre de poche. Alors, il a été fait dans ce format-là pour que les dames puissent le mettre dans leur
Oui,
sac.
ce que j'allais
Voilà.
vous dire. Il y a sûrement une histoire de sac à main derrière.
Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Parce qu'il a
Comme quoi,
beaucoup de
rien ne
lectrices.
change.
Voilà. Camille a beaucoup de lectrices, hein, d'admiratrices qui le lisent, hein, et le suivent. Et donc, cette édition a été faite spécialement pour les dames.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers, nous parlons toujours Camille Flammarion avec le passionnant spécialiste Jonathan Giné.
On parle ici encore de la possibilité d'une vie intelligente dans l'univers, mais il est très moderne puisqu'il va dire que la vie va s'adapter en tenant compte de la gravitation d'une planète, etc., de ses conditions atmosphériques. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, on nous parle beaucoup aujourd'hui, c'est Elon Musk. Alors, c'est bien parce qu'il est idéaliste puisqu'il veut qu'on aille sur Mars. Mais il y a beaucoup de blabla là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. On a une barrière physiologique, et ça, on l'oublie trop souvent, ce que Flammarion nous explique ici. C'est-à-dire que le corps humain n'est pas fait pour de longs voyages dans l'espace, parce que on a nos os qui s'allongent, qui se fragilisent, on a des problèmes très très rapidement dans notre cerveau, dans le sang, etc. Donc on est quand même intimement lié à notre planète, et le fait de vivre sur une planète comme Mars, où la gravité est inférieure à la nôtre, où il n'y a pas les mêmes conditions d'habitabilité, pour nous, ça serait pas possible, en fait. Il faudrait avoir une station limite orbitale autour de la planète avec des conditions qui nous permettent de créer une gravité artificielle. Vous voyez, comme la roue de Von Braun dans le milieu de cet espace, cette roue qui tourne comme ça et qui permet d'avoir la gravité. Alors ça, on l'a jamais fait parce que on se heurte à des problèmes technologiques encore aujourd'hui. C'est très difficile à réaliser. Et donc tout ça pour vous dire que c'est pas pour demain, à mon avis, qu'on va aller habiter sur Mars, malheureusement. Et alors sur la Lune, c'est pareil. Bien sûr, on pourra faire des bases, etc., mais il faudra qu'il y ait des roulements avec les personnels sur place, parce qu'ils auront des gros problèmes. Donc, il y a ce problème-là dont on parle peu, et pourtant qui est au centre du problème du voyage dans l'espace pour nous, les humains. Donc, Camille Flammarion nous indique dans ce document que les formes de vie ailleurs, sur d'autres planètes, peuvent être de différentes natures en fonction de la gravitation de la planète, des conditions atmosphériques, etc. Alors, on est en 1880, paraît le livre fondamental de Camille Flammarion, qui est l'astronomie populaire, qui va connaître un immense succès, et c'est la pierre de fondation de sa vie, en quelque sorte. Il y a un avant et un après l'astronomie populaire. Donc, ce livre-là va connaître une fortune sans précédent. Il va être tiré à la fin de sa vie, en 1925, à plus de 130 000 exemplaires, ce qui est énorme. Ouais. Il est couronné par l'Académie française. Il reçoit le prix Montyon. Alors là, on a les exemplaires d'origine. D'accord. Le bleu, là, la partie bleue, c'est la première version. On a également le vert, là, ici. Et on a la version beaucoup plus connue, qui est la version celle-ci, qui est en rouge, avec parka ligne bleue, etc., qui est superbe. Donc ce livre-là va connaître ce succès qui va permettre à Flammarion de créer la SAF, de bénéficier d'un soutien populaire sans précédent, que n'a pas connu François Arago, d'ailleurs. Là, vous avez ici le frontispice dans l'édition de 1880 avec l'Observatoire. Ça a même été fait en fascicules, comme ici. Alors ça, c'est des fascicules reliés en deux volumes. Pourquoi des fascicules? Parce que le frère de Camille, Ernest Flammarion, a l'idée de permettre donc au plus grand nombre aussi d'accéder aux livres, donc vend des fascicules qui doivent coûter, je crois, 4 à 5 centimes ou 6 centimes, c'est 6 centimes, je crois. Et ça permet donc aux plus humbles d'avoir accès aux connaissances et ne pas les réserver donc à des gens qui achètent des livres à 3, 4 francs.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans son style pour séduire? C'est quoi son truc pour séduire à la fois les érudits et le grand public?
C'est ça, plus. C'est sa plume, c'est son regard optimiste sur le monde. Il interpelle beaucoup le lecteur. Par exemple, il va dire, il est invraisemblable que vous ne sachiez pas où vous habitez. Vous connaissez par exemple vos voisins, vous connaissez la rue de votre maison, les rues adjacentes, etc. Et comment se fait-il que personne ne connaît la proche banlieue de la Terre? Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas votre place dans l'univers? Donc il commence comme ça, il interpelle les gens. Alors ça plaît, hein. Et en même temps, il a ce langage très, comme vous disiez, très poétique, presque alambiqué, on dirait aujourd'hui, de Camus pour présenter des notions difficiles qu'il arrive à vulgariser. En fait, c'est un maître vulgarisateur. On peut même dire, je pense que c'est le plus grand vulgarisateur de science encore jusqu'à aujourd'hui. Après lui, il y a eu Carl Sagan aux États-Unis hein, dans les années 80, qui a écrit Cosmos. D'ailleurs, Sagan était un grand admirateur aussi de Camus Flammarion. On peut dire qu'il a un peu imité Flammarion d'ailleurs. Et après Hubert Reeves en France, et il y en a d'autres. Hein. Et il doit son succès qu'à sa plume et qu'à son livre. Voilà, et il va être traduit en 12 langues. À l'époque, c'est révolutionnaire. Il emploie les premières photos, ici à droite une éclipse de lune, qui est dans l'édition d'ailleurs, je crois, originale, sous une autre forme d'ailleurs, et beaucoup de gravures, parce que il veut faire rêver son public,
ouais, à la fois,
et Flammarion a l'idée d'utiliser l'image à grande échelle. Alors avant lui, pour être honnête, il y a eu Amédée Guillemin, qui est le trait d'union entre l'Arago et Flammarion, qui avait sorti un livre qui s'appelait Le Ciel, un gros pavé également, avec des images également et des photos. Non, des dessins, pardon, il n'y a pas de photos. Ce sont des gravures, des aquarelles. Et il a un texte, mais son texte est beaucoup plus académique. Donc, son livre a eu du succès, hein. Mais son style est différent, un peu universel, mais il lui manque le talent de Flammarion. Il n'a pas la plume à Flammarion, parce que Flammarion, sa force et sa plume. Et lui, il arrive à capter le public, à le faire rêver. En fait, quand vous lisez un livre de Flammarion, on a l'impression d'être plus intelligent après. Voilà. Et on a acquis des tas de connaissances assez facilement grâce à sa plume. Voilà, ça c'est très important. Il sait vulgariser la science. En 55, on a encore une édition de l'Astronomie Populaire. Alors là, il est mort hein, en 26. C'est Gabrielle, sa femme, qui tient à faire cette édition de 55. Voilà. Donc, encore en 55, le nom de Flammarion, c'est encore très connu. Et le livre se vend plutôt pas mal. Et par contre, il n'aura pas quand même le même impact que la première Astronomie Populaire de son époque. Parce que, en 55, bon, bah, l'astronomie a beaucoup avancé. Il y en a beaucoup, on a beaucoup de chercheurs, etc. Il y a beaucoup de livres. En France, on a par exemple Pierre Rousseau, qui est une bonne plume aussi, qui a écrit beaucoup de livres sur la Lune, sur le système solaire, sur les sciences, etc. Voilà. Alors, on a ici des rééditions plus récentes, 77, mise à jour par l'astrophysicien Jean-Claude Péquer. Donc, on a à la fin un cahier où il explique un peu ce qui est caduc et ce qui est toujours d'actualité dans son livre. Encore une autre version qui a été refondu totalement. Alors celle-ci a fait un flop, hein. Ça n'a pas été très bien vendu parce que c'est trop austère. Alors là, on perd un peu l'astronomie populaire. On rentre plutôt dans une astronomie à la fois professionnelle et à la fois amateur aguerri, ce qui fait qu'un lecteur néophyte en astronomie va vite décrocher avec un livre comme ça. Donc ça n'a pas eu de succès. Alors, en 2004, on réédite encore l'Astronomie Populaire chez Flammarion en volume, en coffret, en poche, dans la collection Champ Flammarion. Et cette année, pour le 150e anniversaire des éditions Flammarion, ils ont ressorti encore l'Astronomie Populaire tome 1, tome 2. Voilà. Donc, qui est toujours le même texte. Mais moi, je vous conseille, vous qui m'écoutez aujourd'hui, plutôt que d'acheter une réédition, parce que le problème des rééditions, vous savez, de nos jours, on fait un offset, c'est de l'offset hein, au niveau de l'imprimerie, et c'est très mauvais pour avoir les gravures bien rendues. C'est toujours, c'est trop lumineux, ça aplatit les effets de relief de la gravure. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur eBay, d'aller sur Amazon ou autre, et d'acheter un volume d'origine. Vous savez que vous les trouvez pas cher. Hein. Vous pouvez les trouver, un volume d'origine de Flammarion, l'Astronomie Populaire, à partir de 30 euros. Alors c'est, alors bien sûr, les beaux ouvrages là, que je vous ai montrés en percaline, ça coûte entre 100 et 180, des fois 80. Mais vous pouvez avoir les mêmes éditions en format de l'époque populaire, c'est-à-dire vous n'aurez pas la belle couverture, mais vous aurez tout le contenu idem. Hein. Donc ça vaut le coup que vous achetiez les originaux à 30 euros pour avoir les gravures dans l'état, parce qu'elles sont tellement belles, parce que ces éditions-là, c'est bien, mais au niveau rendu, ça vaut rien. Je vous le dis franchement, alors je vais me faire taper sous les doigts, mais on a ici une prêtresse, une druidesse gauloise qui regarde le ciel et qui essaye de tirer des conceptions sur la mort, sur la vie, parce que Flammarion s'est beaucoup intéressé à l'astronomie des Gaulois, chez les Celtes. Déjà, je vais donner une conférence en début d'année sur une chaîne, et Flammarion aussi a donné des jalons sur ce sujet qui est méconnu. Vous savez que les Gaulois avaient une religion astronomique, en fait. Sur leur monnaie, les monnayages gaulois, qui sont superbes, représentent souvent des constellations et des concepts astronomiques. Et ils pensaient d'ailleurs que lorsqu'on mourait, ils croyaient à la métempsychose, la réincarnation, et ils pensaient qu'on se réincarnait sur d'autres planètes également. Ça va beaucoup plaire à Flammarion, d'ailleurs, cet aspect-là.
J'imagine.
Et Allan Kardec aussi, oui. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, si on a Vénus qui présente des phases, alors là, c'est tout nouveau, parce que personne n'a jamais vu ça dans un livre d'astronomie. À part Amédée Guim, il faut que je sois juste. Mais comme Flammarion a une énorme diffusion, tout le monde voit que Vénus a des phases comme la Lune, donc c'est une planète. Alors ça, c'est Mars. Alors ça, Mars, c'est le grand cheval de bataille de Camille. Alors là, il explique aussi, ça c'est tout à fait nouveau, d'où viennent les étoiles filantes. Les étoiles filantes que tout un chacun voit depuis des siècles.
Bah, l'été jusqu'à surtout. Nos jours.
Voilà, l'été, avec les Perséides. Ouais. Et donc, il explique bien la provenance des étoiles filantes, c'est-à-dire, c'est lorsque l'orbite de la Terre croise l'orbite d'une comète. Et donc, la comète, sur son orbite, va laisser des tas de poussière. Et quand l'orbite de la Terre recroise, justement, l'orbite de la comète, on a de la poussière qui tombe sur la Terre et qui se sublime dans l'atmosphère. D'où ces traînées lumineuses furtives, qui sont toujours très belles à voir, oui, et qui ne lassent pas le public. Et là, on a son deuxième livre, qui se veut un guide. Alors ça, c'est un livre fabuleux, qui est toujours utile pour les astronomes amateurs, parce que ça n'a pas trop changé, les étoiles et les curiosités du ciel, où Flammarion propose aux lecteurs de l'astronomie populaire un autre livre qui va leur permettre, avec un instrument ou à l'œil nu, d'observer le ciel à leur tour. Voilà. Et là, Flammarion fait sortir, et là c'est nouveau, l'astronomie des observatoires pour la répandre partout. Voilà. En France, etc. On l'appelle d'ailleurs l'apôtre de l'astronomie, l'apôtre d'Uranie. C'est presque un sacerdoce religieux chez lui. Voilà. Et là, on a ici au centre je crois que c'est un phototype qui montre la nébuleuse d'Orion Messier 42 telle qu'on la voyait aujourd'hui. À droite, des étoiles colorées. Alors ça plaît beaucoup au grand public parce qu'ils ne savaient pas que les étoiles avaient des couleurs.
Oui,
on a des étoiles de couleur jaune, de couleur bleue, de couleur rouge, et qui sont bien visibles au télescope, aux lunettes. Et ça va plaire, ça va donner envie au public de faire de l'astronomie. C'est ça qui est extraordinaire.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers, nous parlons toujours Camille Flammarion avec le passionnant spécialiste Jonathan Ginet.
Mais donc, on peut encore l'acheter aujourd'hui, je le répète. Ne vous en privez pas plutôt que d'acheter la réédition. C'est mieux d'avoir l'original avec les belles gravures. Voilà. Il a sorti en 1884 Les Terres du Ciel, dont voici plusieurs versions, qui sont... Alors on a l'astronomie populaire qui vulgarise l'astronomie. On a les étoiles du ciel qui permettent au public d'accéder au ciel. Ça, c'est extraordinaire. Et on a les Terres du Ciel qui permet à tout un chacun de savoir qu'est-ce qui se passe sur ces mondes, ce qu'on en sait, c'est-à-dire les planètes du système solaire. Et là, c'est un ouvrage tout à fait novateur avec des images magnifiques comme on voit ici. Ah, oui. En haut, Saturne. Parce que je fais de l'astronomie de manière un peu expérimentale, c'est-à-dire je suis en train de créer un observatoire privé hein, qui est entièrement tourné vers le 19e siècle et qui utilise les instruments de l'époque, si vous voulez, parce que j'essaye de retrouver leurs gestes, de retrouver un peu les images qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Ça me passionne. Hein. C'est pas que je suis passéiste, hein, j'ai aussi les instruments modernes. J'ai un Célestron comme tout le monde, oui. Enfin, comme beaucoup d'amateurs, confirmé, mais je suis un passionné et donc j'essaye de retrouver
cette émotion.
Vraiment comment... Voilà. Et c'est très beau. Hein. Alors, développement des canaux martiens. Alors, avez-vous entendu parler de l'affaire des canaux ? Alors, les canaux martiens, c'est pour ça qu'on parle des martiens en ufologie, entre parenthèses. Hein.
Oui.
Enfin, en ufologie, c'est pas en ufologie. C'est dans la presse qui se moquait. Vous savez, j'ai écrit 4 livres sur la vague de 54 grâce aux archives de Jean Sider. J'ai vu de nombreuses reprises des journalistes parler de martiens. Idem pour les témoins. Alors, pourquoi on parle de martiens ? Parce que on a encore l'idée, à l'époque, on est en 54, donc c'est encore proche, que Mars est habité et que finalement, il y a certainement une civilisation qui se meurt par manque d'eau. Et c'est Schiaparelli, sur la gauche de ma photo, qui va observer le premier, les canaux en question, qui sont des formes rectilignes, on va les voir tout à l'heure, et qui va parler en italien de canale. Alors en fait, canale, ça ne veut pas dire canon, on l'a mal traduit, c'est plutôt l'idée de chenaux aquatique. Et ça frappe l'imagination, les canaux. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on a des grands chantiers industriels et techniques qui sont le canal de Suez et le canal de Panama. Ce sont des entreprises énormes pour l'époque. On a comparé ça à l'entreprise allée sur la Lune pour vous dire que c'était quelque chose d'énorme. Et donc, on a les canaux martiens. Ça parle tout de suite à tout le monde. Alors, en préambule, c'est le père Angelo Zecchi qui va lui aussi observer en 1858 les fameux canaux. Alors lui, c'est un prêtre qui est donc astronome. Il y a beaucoup de prêtres astronomes, hein, cela étant dit. Et donc, lui, il est observatoire du Vatican. Et il voit ces fameuses bandes martiennes qui lui posent question. Alors lui, il va se demander aussi qu'est-ce que c'est que ces filaments qu'ils observent à la surface de Mars, qui n'avaient pas été observés auparavant, d'ailleurs. C'est ça qui est curieux. Et Flammarion reçoit à Juvisy en 1907, là c'est une photo d'époque que j'ai colorisée pour que ça soit plus sympathique, en compagnie de Percival Lowell, qui lui est le grand astronome américain qui va étudier toute sa vie Mars et ses canaux et qui va peut-être aller un peu loin puisqu'il va dire que lui va dire toute une théorie sur la civilisation martienne en question. Voilà. Alors, il dit, alors Flammarion n'est pas l'idée que certains écrivains rejetaient l'idée que d'autres planètes pourraient héberger des formes de vie différentes de celles sur la Terre, ou qu'il les décrivait comme étant trop similaires à nous. Ces idées sur les possibles formes de vie végétales et animales sur Mars ont beaucoup fasciné les gens à l'époque, y compris les sphères intellectuelles et les scientifiques. Il imagine communiquer par la lumière. Alors il dit, Flammarion, il faudrait prendre un grand champ qui soit en friche et de déposer des lumières, mais des lumières qui... pour former des lettres, il parle d'environ, mais c'est un truc énorme, imaginez des lumières les unes à côté des autres sur 100 mètres par exemple, pour former des lettres, pour que les astronomes présumés de Mars puissent à leur tour voir le message sur la Terre pour qu'ils comprennent qu'il y a une intelligence également sur la Terre. Vous voyez, ça va loin. Et après, sur les ondes radio. Alors, les ondes radio, il y a une petite anecdote intéressante. Vous savez que Nikola Tesla, qui est quand même très connu, hein, par contre, avait affirmé avoir reçu des signaux de Mars par la radio. Mais il n'est pas le seul. Hein. Marconi, c'est pareil. Marconi va recevoir aussi des... Alors, il ne dit pas que ça vient de Mars, hein, mais il reçoit des messages un peu inconnus. Alors, à l'époque, c'est intéressant parce que la radio n'était pas encore très répandue. Et les pionniers ont reçu effectivement des communications un peu étranges. Voilà. Alors maintenant, on dit aujourd'hui que peut-être c'était dû que leur première radio était peut-être défaillante, qu'elles pouvaient émettre elles-mêmes peut-être de faux signaux, etc. Donc c'est un peu complexe. Mais il y a eu des choses comme ça. Faut aussi vous dire qu'à cette époque, on a beaucoup de romanciers de science-fiction. Ouais. Alors, on connaît tous Jules Verne. Mais Jules Verne, en fait, c'est lui qui a. Alors, c'est parce que il a franchi le temps, Jules Verne, par la beauté de ses romans, par aussi ses adaptations tout de suite par le cinéma, comme
Oui.
Méliès qui avait adapté De la Terre à la Lune et 20 milieues sous les mers, par exemple. Et donc, ça lui a assuré une certaine notoriété beaucoup plus grande que les autres. Mais Henri de Parville va écrire dans un habitant de la planète Mars, il imagine un martien qui est donc momifié à l'intérieur d'un météore. Et donc, il atterrit sur la Terre comme ça. Donc, on découvre cette momie martienne. Vous avez à cette époque-là une médium qui a été étudiée par le psychologue suisse, je crois qu'il s'appelait Henri Fournoy, qui s'appelle de son pseudonyme Hélène Smith, et qui dit avoir des visions des martiens, avoir des messages d'eux. Donc, en écriture automatique, elle va écrire beaucoup, beaucoup de choses. Et elle va également faire des dessins automatiques et dans lesquels elle représente des villes sur Mars et également sur Jupiter. Et donc, c'est pour vous dire qu'on est dans l'ère du temps. Voilà. Même les médiums reçoivent à l'époque des messages de martiens. Et on a Eugène Antoniadi, qui est un élève de Flammarion. Il a commencé comme adjoint de Flammarion à Juvisy et il va prendre son envol pour devenir lui-même astronome de Meudon. Donc c'est un homme très brillant, il est d'origine grecque. Et lui, on l'appelle le tueur de canaux parce lui va pas voir justement de canaux. Il va observer avec la grande lunette de Meudon, qui est donc une 83 cm d'ouverture, et lui, il voit rien. Et il comprend qu'apparemment, les canaux sont des illusions d'optique qui sont créées par deux facteurs. Le premier facteur, c'est la fatigue oculaire, c'est-à-dire quand vous observez la planète Mars, il faut savoir qu'avec un instrument comme la Hubble ou même comme le Grand Équatorial, on voit la planète Mars pas plus grande que la tête d'une punaise, hein. C'est tout
Ah oui,
petit, hein.
d'accord.
Ah oui, il faut le savoir, hein, c'est tout petit. Et donc, alors on agrandit les images, on peut faire des grossissements, mais plus vous grossissez, plus vous perdez de la lumière, donc plus vous perdez de la précision dans l'image, elle devient floue. Donc, il comprend que c'est la fatigue oculaire, parce qu'il faudra que Lowell, il pouvait observer Mars 5 à 6 heures d'affilée, hein, sans arrêt. Donc, l'œil fatigue et peut créer des illusions d'optique. Après, il y a l'optique elle-même des instruments. À cette époque-là, on a essentiellement des lunettes astronomiques géantes ou des lunettes de plus petit diamètre. Donc, une lunette, ça marche avec une lentille en verre. Donc, si elles sont à l'époque, elles sont achromatiques, c'est-à-dire qu'elles ont deux lentilles, une concave et une convexe, qui permet de corriger ce qu'on appelle le chromatisme. C'est-à-dire quand vous observiez comme Galilée avec une petite lunette sans correction de chromatisme, vous aviez des images un peu polluées, c'est-à-dire on a des bords irisés dans les planètes. Aujourd'hui, maintenant, on a corrigé tout ça. On peut avoir des lunettes de toute petite taille qu'on appelle des compacts avec de très hautes performances, bien évidemment, donc c'est quand même un progrès. Donc cet Antoniadi va dire que tout ça, ben, il y a des erreurs. Alors Carl Sagan, dont j'ai parlé tout à l'heure, le voilà. Carl Sagan, qui est donc le grand vulgarisateur du XXe siècle, qui est d'ailleurs mort prématurément en 1996, c'est un peu un Flammarion moderne. Donc je dirais que l'ironie du sort dans cette histoire de canaux martiens, c'est que les sondes américaines ont véritablement découvert qu'il y avait en tout cas des lignes rivières, comme ici, regardez, c'est extraordinaire, de l'érosion donc hydrique. Donc il y a eu de l'eau sur Mars. C'est quand même ça qui est étonnant. Alors en 1886, Le Monde avant la création de l'homme, ça c'est son deuxième grand bouquin qui parle de paléontologie, qui est en avance sur son époque, puisqu'il pose la question, les dinosaures sont-ils des animaux à sang chaud? Et sont-ils vraiment des reptiles? Alors, il a raison, puisque très récemment, par rapport à son époque dans les années 80, Robert Baker, paléontologue américain, va écrire dans le Ptérodactyle rose que non seulement certains dinosaures, même pas mal de dinosaures, ont le sang chaud, sont des animaux à sang chaud, mais en plus, ils sont peut-être pas tout à fait des reptiles comme on le pensait. Voilà, donc après, il va écrire en 1882 l'astronomie, en 87 la SAF, enfin, je passe vite parce qu'il nous manque peu. Là, c'est la superbe. Alors voilà, l'astronomie avait eu beaucoup de succès à l'époque à Paris, dans le monde. Voilà, à Paris à droite, on payait pour voir les taches solaires, pour voir Saturne, etc. On va voir la Lune comme aujourd'hui, on va au cinéma en quelque sorte. Voilà, la Lune, Jupiter, Saturne, ça passionnait les gens. Et voilà, lunette des écoles qui a été créée par Flammarion. Et il s'est dit, ah, c'est pas le tout qu'on lise mes livres, il faut que les enfants puissent avoir accès aussi. Et donc cette lunette d'un prix pas extrêmement cher, 39 francs, était dans le premier modèle, était accessible donc pour les écoles, et donc les écoles en ont acheté. Ces conférences dès 1866 vont se faire avec des diapositives, avec une lanterne magique, voilà, les diapos de l'époque. Voilà.
Flammarion en tout cas a su donner au ciel une voix accessible, poétique et profondément humaine, mais il serait réducteur de s'arrêter là. Car cet homme, curieux de tout, ne s'est pas contenté de scruter l'infiniment grand, une autre quête l'a habité tout au long de sa vie, celle de l'invisible. À côté des télescopes et des calculs, Flammarion s'est intéressé aux manifestations étranges, aux récits troublants, aux phénomènes que la science de son temps ne savait encore expliquer. Les fantômes, les apparitions, les signes de l'au-delà. Autant de mystères qui pour lui méritaient une attention sérieuse, une enquête méthodique, presque scientifique. Car après tout, n'est-ce pas une démarche qui guide l'astronome et le chercheur d'âme? Alors lever les yeux vers le ciel, les étoiles, pour comprendre l'univers, ou tendre l'oreille vers l'invisible pour tenter d'entendre ce qui survit après la mort. Alors deux explorations, deux infinis, l'un au-dessus de nos têtes, l'autre au seuil de notre existence. Et c'est précisément ce que nous découvrirons dans le second volet de cette émission spéciale. Donc la diffusion sera le 21 octobre à 21h. On sera toujours aux côtés de mon invité Jonathan Ginet, auteur de l'ouvrage à venir en novembre, Camille Flammarion et les fantômes. Alors après avoir traversé les étoiles avec Camille Flammarion, nous nous préparerons à franchir une autre frontière, plus intime, plus dérangeante pour certains, celle qui nous conduit à la rencontre des fantômes. Alors rendez-vous le 21 octobre pour la suite de ce voyage entre science et spiritisme, entre lumière et ombre, entre l'infini du ciel et l'invisible de l'au-delà. Jonathan Ginet, en tout cas, merci.
De rien.
Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de prendre soin de vous.
N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter à notre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.